La Bible dit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9, du verset 36 à 38, que le Seigneur était face à une foule. Il était ému de compassion parce que cette foule était comme des brebis sans berger. Le Seigneur était dans la tristesse de voir tout un peuple sans berger, sans personne pour les conduire. Alors le Seigneur dit à ses disciples, « Priez donc le maître de la moisson, afin qu'il envoie des ouvriers. Priez Dieu, parce qu'il y a un manque d'ouvriers. La moisson a besoin d'ouvriers. » Et le Seigneur dit à ses disciples, « Priez donc celui qui est le maître. » Alors, c'est une question qui nous revient, c'est une question quelquefois pour laquelle on n'a pas forcément de réponse concrète. Parce que lorsque nous regardons dans certaines assemblées, lorsque nous regardons autour de nous, on a l'impression quelquefois de voir un certain nombre de chrétiens. Lorsque nous venons dans un temple, dans une structure comme celle-ci, on peut se poser la question quelquefois, mais comment ? Ce sont souvent les mêmes personnes qui passent devant ? Ce sont souvent les mêmes personnes qui prêchent ? Est-ce là la volonté de Dieu ? Est-ce que c'est contradictoire à la parole de Dieu ? Est-ce que les hommes qui dirigent telle ou telle œuvre sont-ils des dictateurs, sont-ils des personnes égoïstes qui cherchent à s'accaparer l'œuvre de Dieu ? Pourtant, la Bible dit que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et chacun à notre niveau, nous pouvons le voir, nous pouvons le discerner si nous sommes sincères envers le Seigneur, si nous sommes sincères envers nous-mêmes. On voudrait bien quelquefois se passer de multiplier le travail. Le fait qu'il y ait plusieurs ouvriers permet de diminuer les charges, permet de dispatcher le travail. Mais la réalité biblique nous dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Pourquoi y a-t-il peu d'ouvriers ? Est-ce que Dieu est mauvais ? Puisque nous prions, Seigneur, envoie des ouvriers pour la moisson. Pourquoi le Seigneur ne se sert pas premièrement de ceux qui sont, je dirais, potentiellement des ouvriers ? Je parle de ceux qui se disent chrétiens, ceux qui disent avoir confessé que Jésus-Christ est Seigneur, ceux qui disent avoir accepté Jésus-Christ dans leur vie. Parmi tout ce nombre qui se dit chrétien, très peu veulent servir le Seigneur. Très peu cherchent à servir le Seigneur. Nous sommes dans un monde où nous avons reçu une certaine éducation de nos parents païens. Nous avons reçu une éducation d'un système païen. Et cette éducation, nous en conservons quelquefois certaines miettes avec lesquelles nous arrivons dans l'œuvre de Dieu. Et bien que nous confessons appartenir à Jésus, nous ne nous empressons pas de le servir, nous ne nous empressons pas de nous mettre à sa disposition. Bien-aimés, nous sommes nés, la Bible dit, pour être semblables au Fils de Dieu. Nous sommes appelés à être à l'image de Jésus-Christ. Jésus-Christ est l'image parfaite du serviteur de Dieu. Jésus-Christ est l'image parfaite du Fils de Dieu. Et c'est à cela que nous sommes appelés. Nous ne pouvons pas servir le Seigneur selon notre propre conviction. On ne peut pas servir Dieu avec notre propre idée. Mais on doit servir Dieu comme lui le veut. Pourquoi il y a peu d'ouvriers ? Parce que l'ouvrier d'aujourd'hui ne veut pas se considérer comme serviteur. Serviteur, bien-aimé, c'est un esclave. L'esclave n'a pas à discuter avec le maître. L'esclave obéit tout simplement à ce que le maître lui demande de faire. Alors lorsque nous voyons ouvrier, nous pensons tout de suite à ministère, à ministre. Et là, nous voulons être à l'image du gouvernement tel que nous le voyons en France, avec des ministres qui ont des chauffeurs, qui ont des maisons de fonction, avec des ministres qui sont bien habillés chaque jour, qui ont des gens à leur service. C'est l'image que nous voulons garder du ministère de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a la pagaille dans les églises. C'est pourquoi il y a la bagarre, c'est pourquoi il y a la concurrence. Tel pasteur veut avoir la plus belle voiture que l'autre. On a appris que là-bas, il y avait 1000 membres. Alors, il faut construire quelque chose de 1500 membres. C'est une concurrence, une course à celui qui sera le plus estimé parmi le monde. Et c'est à cause de cette image que beaucoup de serviteurs donnent, que beaucoup cherchent à servir Dieu. Non pas parce qu'ils l'ont connu, mais parce qu'en servant Dieu, c'est comme si on signait un CDI. Aujourd'hui, les gens sont rassurés lorsque le CDI est signé. Mais lorsqu'on fait les allers-retours au pôle emploi, lorsqu'on fait les allers-retours à l'intérim, on rentre souvent le soir, on se tient la tête. Mais lorsqu'on signe le CDI, certains fêtent même bien-aimés. Et beaucoup pensent que venir servir Dieu, c'est comme un CDI à l'image du monde. Parce que l'œuvre de Dieu est devenue un système financier, est devenue un emploi stable dans lequel les membres vont bien cotiser et les pasteurs vont mettre dans les poches. Il va assurer son avenir, il va assurer sa retraite. Et quand il en aura fini, comme l'Église est devenue une entreprise, il va léguer ça à son fils ou bien à son neveu. Et beaucoup, lorsqu'ils voient l'image de cette Église, cherchent à devenir serviteur de Dieu. Or, le véritable serviteur est celui qui est à l'image de Jésus. Le Seigneur n'est pas contre les richesses, mais la Bible dit que le Fils de l'homme même, Jésus-Christ, n'a pas d'endroit où poser sa tête. Même les animaux ont des tanières. Ce côté service de Dieu, nous n'en voulons pas. Nous voulons le côté qui brille, le côté des belles voitures, le côté de l'éloquence, le côté du pouvoir, bien-aimé. Mais celui qui veut être serviteur de Dieu doit être serviteur à l'image de Dieu lui-même, doit être serviteur selon l'exemple que Jésus-Christ nous a donné. Et nous voyons tant d'exemples dans la Bible qui nous montrent ce que c'est qu'un véritable serviteur. Mais ce côté de la Bible, c'est un côté qui dérange. Parce que l'homme aime la richesse, l'homme aime le pouvoir, l'homme être au-dessus des autres hommes. Et c'est pourquoi nous n'acceptons pas ces conditions-là. Et le Seigneur dit, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Potentiellement, si nous comptons, on dira, mais il y a beaucoup de chrétiens. Il y a quand même un certain nombre de chrétiens. Mais parmi tous ceux qui se disent chrétiens, tous ne sont pas serviteurs de Dieu. Non pas parce que Dieu ne le veut pas, mais parce qu'ils refusent tout simplement d'entrer dans les critères de Dieu. Ils refusent de servir Dieu comme Dieu le veut. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Bien-aimés, chacun d'entre nous sait ce qu'il est venu chercher ce matin. Peut-être tu es venu entendre une belle louange. Peut-être tu es venu tout simplement rencontrer, tu as peut-être eu rendez-vous ici avec quelqu'un. Mais la réalité, bien-aimés, c'est que le Seigneur nous appelle. La réalité, c'est que si nous avons été sauvés, c'est pour servir le Seigneur. Le ciel et la terre passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront pas. Tu es peut-être venu pour te montrer parce qu'il y a quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, bien-aimé. Mais ce matin, je nous interpelle. Soyons attentifs à la parole de Dieu. Ce matin, je nous interpelle, bien-aimé, faisons un choix définitif de servir Dieu. Le monde et tous ses plaisirs vont passer un jour. Le monde et tous ses plaisirs vont nous décevoir un jour, bien-aimés. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas forts. Les forts ne viennent pas à l'église, bien-aimés. Les forts sont dans leur maison. Les puissants sont dans leur bureau avec leurs serviteurs. Mais ceux qui reconnaissent qu'ils ne sont rien du tout, cherchent le Seigneur. Alors, bien-aimés, si ce matin tu te prenais encore pour quelqu'un, laisse-moi te dire que si c'est le Seigneur qui t'a attiré ici, c'est pour te faire comprendre que tu n'es rien du tout. Seul Dieu est quelque chose, seul Jésus est quelque chose. Nous ne sommes rien, bien-aimés. Nous n'avons pas le pouvoir de donner la vie ou de donner la mort. Nous ne sommes là par la grâce de Dieu. Nous sommes là non pas parce que nous avons connu Dieu par notre propre intelligence. C'est impossible. On ne peut connaître que Dieu que si lui se révèle à nous. Dieu, on ne le contrôle pas. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Alors la question c'est pourquoi y a-t-il si peu d'ouvriers? Pourquoi l'œuvre de Dieu devrait-elle reposer sur une poignée d'hommes, alors que potentiellement, il y a un certain nombre qui se disent enfants de Dieu? Vous voyez, bien-aimés, comment Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Le peuple n'a fait que se rebeller. Moïse les a sortis de l'Égypte, par la puissance de Dieu arrivés dans le désert. Mais il fallait nous laisser en Égypte, là-bas au moins il y avait de la viande. Voilà, maintenant on est devant la mer, les Égyptiens arrivent, nous allons mourir. Qu'est-ce que tu as fait, Moïse? Pourquoi tu nous as menés jusqu'ici? Rébellion sur rébellion, bien-aimé. Moïse a craqué, il s'est énervé un jour. Et à cause de cela, la Bible dit, Dieu lui a dit, tu n'entreras pas, tu ne verras pas la terre promise. Parce que tu as péché contre l'Éternel. Beaucoup de serviteurs, bien-aimés, craquent. Parce que vous savez, humainement, c'est impossible de servir Dieu. Et combien même nous sommes spirituels, c'est difficile de servir Dieu. C'est un combat de chaque jour. Je le disais une fois, et ce qui est dommage et malheureux, bien-aimés, c'est qu'aujourd'hui, nous défendons la parole plus vers les chrétiens que vers les païens. On entre dans des débats pour défendre la Bible envers quelqu'un qui se dit enfant de Dieu. Ça serait logique, un païen, quelqu'un qui ne connaît pas la Bible. Pour lui, ce qu'on lui dit, ce n'est pas logique. Et on pourrait comprendre qu'il y ait un débat à partir de cette situation, bien-aimés. Mais quelqu'un qui se dit enfant de Dieu, il faut encore défendre la Bible en face de lui. il faut justifier que Dieu a raison. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle il y a peu d'ouvriers. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui, tels que nous sommes bien aimés, nous refusons de prendre la parole telle que Dieu nous la présente. On voudrait se forger, on voudrait se former un emploi sur mesure. Comme on va voir le couturier qui prend les mesures pour faire un beau vêtement, on voudrait venir au Seigneur avec nos propres mesures. Moi, il me faut ceci. Moi, il me faut cela. Il faut que ça soit arrangé, comme ça un peu à gauche, arrangé comme ça un peu à droite. Bien aimé, le serviteur de Dieu ne choisit pas. Lorsque nous postulons pour des emplois bien aimés, on fait ce qu'on nous demande de faire. Si on n'est pas d'accord, le contrat, on ne le signe pas. Mais dès l'instant où nous avons signé le contrat, nous devons accepter toutes les conditions qui sont dans le contrat. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, on devient serviteur de Dieu. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la Bible dit qu'il a placé Adam au milieu du jardin pour le cultiver. Depuis la création, le Seigneur avait mis dans l'homme le souci d'être actif, le souci de produire, de faire quelque chose pour Dieu. À combien plus forte raison nous qui avons accepté Jésus-Christ bien-aimé? Ce n'est pas pour rester éternellement venir écouter le pasteur prêcher. Il faut bien qu'à un moment donné, on serve aussi les autres. Il faut bien qu'à un moment donné, on se mette à la disposition des autres. On ne peut pas être toujours dans le côté de consommateur, mais il faut à un moment donné qu'on se sacrifie aussi pour les autres. Depuis le commencement, Dieu avait mis ça dans l'homme. Vous voyez aujourd'hui une personne qui peut souffrir de la maladie ou bien avoir un accident. Lorsqu'elle reste longtemps couchée sur le lit de l'hôpital, bien aimé, pour reprendre la marche, ce n'est pas facile. Lorsque le muscle est resté statique, lorsque le muscle n'a pas travaillé, bien aimé, il faut tout un travail de rééducation pour que la personne se remette à marcher. Il y a certains cas même où on fait des piqûres dans le ventre pour éviter justement que le sang se coagule. Pourquoi ? Parce que lorsque le corps n'est pas en activité, le corps est amené à mourir. Et lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, mais que nous ne voulons pas être en activité pour le Seigneur, bien aimé, ne nous trompons pas. On finira aussi par mourir. À rester, à regarder bien-aimé, à rester spectateur, on finira un jour par mourir. Dieu nous a créés pour être actifs. Et lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous devenons aussi serviteurs de Dieu. Le serviteur de Dieu, ce n'est pas que le pasteur, le prophète ou l'évangéliste, le docteur, tout ce qu'on veut bien-aimé. Le serviteur de Dieu, c'est celui qui a accepté Jésus. Car dès l'instant où on accepte Jésus, on confesse qu'il est notre Seigneur. Alors, s'il est Seigneur, c'est que forcément nous sommes ses serviteurs. S'il est Seigneur, c'est que nous sommes ses ouvriers. Mais bien aimé, un ouvrier ou un serviteur ne peut pas rester là assis à ne rien faire. Si nous sommes appelés ouvriers, c'est qu'il y a forcément du travail. Et ce travail-là est fait, bien aimé, quelquefois à un rythme ralenti. Parce que la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. L'œuvre de Dieu ne peut pas être dirigée par un seul homme. Ce n'est pas possible. Parce que ce n'est pas dans le schéma de Dieu. Dans le schéma de Dieu, la Bible dit que nous sommes un corps. Dans un corps, il y a des membres différents. Le pied ne peut pas faire le travail de la bouche. Il n'est même pas équipé pour ça. La main ne peut pas faire le travail du cœur. Elle n'est pas faite pour ça, bien-aimé. Alors si nous sommes tous membres du corps parce que nous avons accepté Jésus, c'est que forcément nous avons une fonction que le frère ne peut pas faire à ta place, que la sœur ne peut pas faire à ta place. Mais le Seigneur est obligé de s'accommoder. Le travail que tel devait faire, puisqu'il est fainéant, Dieu va susciter une autre personne pour le faire. Mais la volonté de Dieu au départ, c'était que la personne qui soit appelée à ça fasse son travail. Mais comme il y a peu d'ouvriers, alors quelquefois, la charge revient sur une poignée de personnes. Parce que le chrétien ne veut pas œuvrer pour le Seigneur. Le chrétien veut se contenter du minimum. Bien aimé, on ne peut pas dire que nous sommes chrétiens et ne pas servir Dieu. Ce n'est pas logique, bien aimé, et ce n'est pas biblique. Dès l'instant où nous devenons enfants de Dieu, automatiquement nous sommes aussi serviteurs de Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 12. La Bible dit au verset 4, 1 Corinthiens 12, verset 4, « Il y a diversité de dons, mais le même esprit. » Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Il y a des ouvriers potentiels qui ne servent pas le Seigneur parce qu'ils ont l'impression que tel travail, ce n'est pas pour lui, que l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour lui, que telle fonction, ce n'est pas pour lui. Il n'a peut-être pas assez étudié. Peut-être que lorsqu'il entend prêcher, il se dit, mais est-ce qu'un jour, moi, je pourrais prêcher comme ça? Il se fixe des limites, il se fixe des barrières en fonction de sa propre compréhension. Or, la Bible nous dit que nous sommes tous membres du même corps. Et dans un corps, les membres ont leur fonction. Chacun doit remplir pour l'utilité du corps, pour l'utilité commune. La Bible nous dit que les dons de l'Esprit ont été distribués à chacun. Chaque enfant de Dieu, chaque personne qui vient au Seigneur en esprit et en vérité, reçoit automatiquement un don de Dieu. Et la Bible nous dit que les dons ont été distribués à chacun pour l'utilité commune. Donc celui qui reçoit le don, ce n'est pas pour lui. Lorsqu'on reçoit un don, c'est pour mettre au service de l'Église, au service du corps. La main ne peut pas se servir elle-même. La main, est au service de tout le corps. Elle prend l'aliment, le met dans la bouche qui va faire son travail, pour envoyer à l'estomac, l'estomac qui va faire son travail, pour que tout le corps soit en bonne santé. Donc chaque membre du corps a son rôle à jouer. Et la Bible nous donne une certitude dans ce passage, c'est que chaque membre a reçu un don. Chacun d'entre nous qui nous disons de Jésus a forcément reçu quelque chose de Dieu. Alors beaucoup ne servent pas parce qu'ils ignorent qu'ils ont reçu quelque chose de Dieu. Ils ignorent qu'ils peuvent servir Dieu. Peut-être à partir d'un mauvais enseignement qu'ils ont reçu. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des dictateurs qui font en sorte que tout repose sur eux, que tout dépende d'eux, de manière à ce que tous les autres deviennent inutiles et dépendants d'eux. Or, la Bible, c'est qu'on soit dépendants les uns des autres, qu'on puisse servir les uns des autres, parce que nous sommes un corps, chacun avec une fonction particulière. On a besoin des uns des autres, si réellement nous sommes dans le corps. On ne peut pas dire, mais moi je fais ma vie. Moi, c'est ma vie, ça me regarde. Bien aimé, ça ne te regarde pas. Dès l'instant où tu deviens enfant de Dieu, tu ne peux plus dire que tu vis seul. Tu dois vivre par rapport au corps. Tu dois vivre en fonction du corps. Tu ne peux pas dire, c'est ma vie, ça me regarde. Le salut est individuel. Mais si nous sommes membres du corps, bien aimé, nous sommes forcément dépendants des uns des autres et obligatoirement, nous devons avoir besoin des uns des autres à un certain niveau. Aucun membre ne peut être isolé. Mais pour autant, nous devons comprendre, saisir, bien-aimés, que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Quelque chose qui peut être quelquefois difficile à discerner dans un premier temps. Mais nous devons avoir cette assurance que nous avons un rôle à jouer dans l'œuvre de Dieu. Chacun à notre niveau, bien-aimés. Personne ne reste sur la touche. Avec le Seigneur, il n'y a pas de remplaçant. Les remplaçants, c'est dans le monde, bien-aimés. Comme on voit dans les équipes de football, 11 sur le terrain, les autres sur le banc de touche. Avec Dieu, il n'a pas de banc de touche. Tous sont sur le terrain. Tous sont dans la moisson. Pour autant que chacun prenne conscience de sa responsabilité et de son rôle à jouer. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers bien-aimés, parce que ceux qui devraient l'être n'ont pas réalisé qu'ils avaient les moyens de servir Dieu aujourd'hui. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 1er. D'autres ne servent pas le Seigneur parce qu'ils se sous-estiment. Ils veulent éternellement rester, je parle de manière charnelle, sur la dernière place. Ils se disent tellement mauvais, peut-être par rapport à ce qu'ils ont entendu autrefois. Ils ont l'impression de ne pas pouvoir être à la hauteur, bien-aimés. Mais lorsque nous servons Dieu, nous le servons par le concours de son Esprit Saint. Ce n'est pas par notre propre force. Voilà ce que nous dit la Bible, 1 Corinthiens 1, verset 26. Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise. Celles qui ne sont point pour réduire à néant celles qui sont. afin que personne ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Bien-aimés, quelle bonne nouvelle de savoir que les critères de sélection de Dieu ne sont pas les mêmes critères de sélection du monde. Le monde nous demande, lorsque nous allons chercher du travail, de présenter un CV qui va justifier notre qualification, qui va justifier notre expérience. On va nous choisir, on va nous sélectionner en fonction de l'expérience que nous avons. Et c'est ce qui fait que beaucoup aujourd'hui sont isolés, que beaucoup ont du mal à trouver des emplois, parce que l'expérience ne correspond pas à ce qu'on recherche. Il y a tellement de critères dans lesquels le monde nous renferme qui fait qu'il y a certains emplois qu'on ne pourra jamais faire. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir, je dirais, un gabarit un peu fort. Eh bien, on les verra rarement être hôtesse de l'air, bien-aimé, parce que le monde, selon ses critères, pour être hôtesse de l'air, il faut avoir une certaine taille. Pour être considéré comme top modèle, il faut avoir une certaine ligne, bien-aimé. Le monde met de côté tout ce qui n'entre pas dans ses critères. Mais la bonne nouvelle, c'est que Dieu, lui, ne choisit pas selon ces critères-là. Tout ce que le monde refuse, tout ce que le monde ne regarde pas, Dieu dit que c'est ça que lui, il choisit, afin de confondre les forts. Il a confondu les pharisiens, qui étaient étonnés de voir des hommes qui n'avaient pas été à l'école, qui n'avaient pas eu d'éducation, leur enseigner la doctrine. Ces gens sans éducation, qu'est-ce qu'ils vont nous apprendre? Parce que le Seigneur avait choisi les choses viles, les choses qui sont négligées, les choses qui n'ont pas d'importance au niveau de ce monde-là. Bien-aimés, que personne ne pense que s'il est venu au Seigneur, qu'il soit venu trop tard. Même aujourd'hui, bien-aimés, peut-être que ce que je dis, ça peut blesser, ça peut faire mal, bien-aimés, mais c'est une bonne nouvelle que de savoir que même si j'étais en retard, le Seigneur est prêt à me remettre dans le wagon. Il dit qu'il ne mettra pas dehors celui qui vient à lui. C'est ça la bonne nouvelle, bien-aimés. Or, le monde, aujourd'hui, vous voyez, lorsque vous arrivez à un certain âge, ça devient très, très difficile. Tu as dépassé l'âge de sélection et on voit beaucoup de personnes arriver à un certain âge qui galèrent pour trouver du travail parce que le temps est dépassé. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Même à 99 ans, c'est toujours possible de travailler pour lui. Combien même on a passé toute la moitié de notre vie sans Dieu, lorsqu'on se présente devant lui, le Seigneur garde toujours la porte ouverte. Et il nous a choisis tous, bien-aimés, comme il le dit, non pas parce que nous étions puissants ou parce que nous étions forts, parce que Dieu choisit tout simplement ceux qui sont vus comme inutiles, ceux qui se voient même comme inutiles, ceux qui se voient comme n'étant pas forts, mais étant faibles devant Dieu, bien-aimés. Et je confirme encore ce que je disais, nous sommes là, bien-aimés, si nous avons accepté le Seigneur, c'est parce que nous étions faibles. Alors que personne dans l'œuvre de Dieu pense être fort, bien-aimés, c'est une folie et c'est une erreur grave. Nous sommes dans l'œuvre de Dieu, nous pouvons servir Dieu parce que nous avons reconnu que nous étions faibles, nous avons reconnu que nous étions rien du tout. Si nous étions sans péché, alors nous n'aurions pas accepté le Seigneur. Mais si nous avons accepté le Seigneur, c'est parce que nous avons reconnu que nous étions sales, que nous étions remplis de péché et que nous avons besoin d'être sanctifiés, d'être lavés. C'est la raison pour laquelle, bien-aimés, les gens qui sont forts, les gens qui sont propres, les gens qui se disent honnêtes, qui se disent purs, ben, ils sont dans leur coin, mais ils ne viennent pas au Seigneur. Mais ceux qui reconnaissent, qui sont sales à cause du péché, ce sont ceux-là qui viennent au Seigneur. Donc si nous sommes là ce matin, bien-aimés, c'est parce que nous avons reconnu notre état devant Dieu et nous avons reconnu que nous avons besoin du Seigneur. Les critères de sélection selon Dieu ne sont pas les mêmes critères de sélection selon le monde. Je le dis, bien-aimés, pour que nous puissions réaliser combien Dieu est bon, combien le Seigneur nous tend les bras, bien-aimés. Combien le Seigneur nous soutiendra dans tout ce que nous ferons avec lui. Dieu ne nous a pas choisis en vain. Il nous a choisis parce que nous avons reconnu qu'il était notre Dieu. Nous lisons Exode chapitre 3 et nous allons voir l'exemple de Moïse qui était aussi un homme comme nous, avec les réactions que nous pouvons avoir. Mais nous savons aussi les exploits que Moïse a fait avec le Seigneur. La Bible dit aussi que Élie était un homme comme nous. Mais il a prié et le ciel a été fermé pendant 3 ans. Il n'y a pas eu de pluie. Pourtant, c'était un homme comme nous. Il n'avait pas une caractéristique particulière. Il n'avait pas peut-être 2 bras de plus que nous. C'était un homme comme nous. Mais parce qu'il a accepté, parce qu'ils ont accepté de faire confiance au Seigneur, Dieu aussi a fait des exploits avec eux. La Bible dit, Exode chapitre 3, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro son père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. » L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» Et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. Et j'ai vu l'oppression que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir de l'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » L'Éternel se révèle à Moïse. La Bible dit que Moïse était en train de faire paître le troupeau. À ce moment-là, Moïse n'avait même pas l'idée, même pas l'imagination qu'il allait faire la rencontre de Dieu, que Dieu l'appellerait pour aller délivrer le peuple d'Israël. Bien-aimé, pourquoi il y a peu d'ouvriers? Parce que l'ouvrier d'aujourd'hui veut que Dieu planifie tout, que Dieu a planifié, mais il veut que Dieu lui montre concrètement, à l'avance. L'ouvrier d'aujourd'hui refuse lorsque Dieu dit « va ». Mais va, je vais aller où, Seigneur? Dis-moi d'abord où je vais. Dis-moi d'abord ce que je dois faire. Bien-aimé, le serviteur de Dieu, ce n'est pas en cherchant à servir Dieu dans ce qu'on veut, mais c'est en étant tout simplement disposé à faire ce que Dieu nous demande. Moïse ne savait pas que ce jour-là, il rencontrerait le Seigneur. Et lorsque Dieu se présente à nous, lorsque une responsabilité se présente à nous, nous fuyons parce que nous disons que nous ne sommes pas prêts. Alors, bien aimé, la question, c'est on sera prêt quand? À quel moment pouvons-nous savoir que nous sommes prêts? Il y a peu d'ouvriers bien aimés parce que l'ouvrier veut se qualifier lui-même. Il veut décider du jour où lui sera prêt. On n'est pas prêt quand on le décide. On est prêt quand Dieu a dit que tu es prêt. C'est lorsque Dieu nous dit que nous sommes prêts, c'est là que nous sommes prêts, bien-aimés. Il y a des gens qui croyaient être prêts. Ils ont voulu servir Dieu à leur façon. Mais ça a très mal terminé. Parce que lui croyait être prêt. Mais il y a des gens qui pensaient ne pas être prêts. Mais ils ont accepté tout simplement d'obéir à Dieu. Et on a vu les exploits qu'ils ont faits. Parce qu'ils ont été prêts, non pas parce qu'ils l'ont décidé, ils ont été prêts parce que Dieu leur a dit qu'ils étaient prêts. Dans le service pour le Seigneur bien-aimé, il ne va pas toujours, il va pas nous appeler à l'avance, envoyer un courrier avec accusé de réception pour nous dire que tel jour, bien-aimé, on fera telle chose. Dieu ne le fera pas. Si nous sommes des ouvriers, si nous sommes ses serviteurs, le jour où il nous le dira, j'ai besoin de toi aujourd'hui, on répondra tout simplement présent. Seigneur, je sens peut-être que je n'ai pas la capacité. J'ai l'impression que c'est au-dessus de moi. Mais puisque tu as décidé que c'est aujourd'hui, j'accepte tout simplement. Mais nous voulons que Dieu nous prévienne à l'avance. Et c'est pourquoi il y a peu d'ouvriers. Parce que ce n'est pas à Dieu de s'adapter à nous, mais c'est à nous de nous adapter au système de Dieu. Or, dans le système de Dieu, c'est lui qui décide. Moïse ne savait pas que ce jour-là, Dieu l'enverrait pour délivrer son peuple. Lorsque Dieu se révélera à nous, lorsque Dieu nous demandera de faire quelque chose bien-aimé, on ne sera pas toujours averti par un songe, par une vision. Dieu peut le faire dans sa souveraineté. Et il peut ne pas le faire aussi dans sa souveraineté. C'est à nous tout simplement, dans l'obéissance, d'accepter que si Dieu a dit c'est aujourd'hui, c'est que forcément il nous a donné les capacités, puisque c'est écrit qu'à chaque personne il a donné un don pour l'utilité commune. Donc dès l'instant où nous sommes devenus enfants de Dieu et que Dieu nous demande de faire quelque chose, bien aimé, c'est parce que nous avons reçu quelque chose de Dieu. Le Seigneur ne peut pas nous envoyer quelque part s'il ne nous en donne pas les moyens. Lequel des parents va envoyer son enfant, va m'acheter le pain et puis ne lui donne pas l'argent? L'enfant va rester assis là, il va attendre que tu lui donnes l'argent, bien aimé. Alors combien Dieu qui est plus bon que nous va nous envoyer quelque part sans nous donner les moyens pour accomplir ce qu'il demande? Lorsque le Seigneur a envoyé ses disciples deux à deux, la Bible dit qu'il les a envoyés en leur donnant l'autorité de chasser les démons, l'autorité de guérir les malades. Ils sont partis parce que le Seigneur leur avait donné l'autorité. L'autorité qu'il leur avait donnée, bien aimé, ce n'était pas, un sceau ou bien un cachot, quelque chose qu'ils allaient justifier devant les gens. « Bon, je dois prier pour toi. Voilà l'écrit. Dieu m'a dit que je dois prier pour toi. » Non, bien aimé. Ils ont reçu cette autorité par la foi. Puisque c'est Jésus-Christ qui les avait envoyés, ils ont été, parce que c'est Jésus qui avait envoyé. Lorsque Dieu s'est révélé à Gédéon, Gédéon s'est posé la question, « Pourquoi moi ?» Gédéon était dans le doute. Le Seigneur lui a dit, « Qui t'envoie ? N'est-ce pas moi qui t'envoie ? Va avec la force que tu as. » Dieu s'est révélé à Moïse, a dit, « C'est moi qui t'envoie, et moi-même je serai avec toi. » Alors Moïse va entrer dans des justifications. Comme ça nous arrive bien souvent, au verset 13. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Va rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, « L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, « Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. » Et j'ai dit, je vous ferai monter de l'Égypte où vous souffrez dans le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Jébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix et tu iras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte et vous lui direz, l'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. Je sais que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte par toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle. Après quoi, il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens, et quand vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements que vous mettrez sur vos fils et vos filles. Et vous dépouillerez les Égyptiens. » Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » Dieu dit à Moïse, « Tu vas. » Moïse commence à se justifier, « Mais je vais aller leur dire quoi ? Si ils me demandent quel est ton nom, qu'est-ce que je vais leur dire ? Je sais qu'ils ne me croiront pas. » Bien-aimés, dans le service pour Dieu, ce qui est important, ce ne sont pas, bien-aimés, ce que les gens diront. Ce n'est pas ce que les gens répondront. Parce que si c'est là notre souci, bien-aimés, le refus de servir Dieu, parce que nous savons que tel n'écoutera pas, bien-aimés, nous ne servirons jamais le Seigneur. Nous sommes conscients, moi le premier, bien-aimés, que lorsque je vais prêcher la parole de Dieu, je sais que certains ne seront pas d'accord. Je sais que certains vont contester. Je sais que certains ne vont pas appliquer. Alors si je me dis, mais je ne vais pas prêcher parce que je sais que certains ne vont pas appliquer, bien-aimé, alors c'est que je n'ai rien compris. Mais si c'est même une seule personne qui écoute, une seule personne qui se repent, alors le travail a été fait. Mon problème, ce n'est pas de voir le résultat que cela va produire. Mon problème, c'est d'obéir à Dieu qui m'a envoyé. Est-ce que les gens vont écouter ? Est-ce que les gens vont me croire ? Ça, ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est d'ouvrir la bouche et de parler. Et le Saint-Esprit fera le reste. Et chacun fera aussi ce qu'il a fait. Mon souci, ce n'est pas d'aller vérifier dans les maisons, est-ce qu'il a appliqué? Est-ce qu'il a pratiqué? Bien aimé, ça, ce n'est pas mon problème. Notre problème, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Il a dit à Moïse, va, tout simplement. Tu vas te tenir là-bas, tu vas parler en mon nom. C'est ce que Dieu nous demande, bien aimé. Il y a peu d'ouvriers, parce que nous refusons, bien aimé, d'être dans une situation qui paraît comme étant un échec. Nous voulons être à l'image du monde. Lorsqu'on parle, on nous écoute, on obéit au doigt et à l'œil. Et lorsqu'il n'y a pas d'obéissance, lorsque les choses sont faites contrairement à ce qu'on a dit, alors c'est la déception. Mais à quoi ça sert, puisque les gens n'écoutent pas? À quoi ça sert, puisque ça fait longtemps que je prêche, les gens ne changent pas? Bien-aimés, on n'a jamais dit que c'est ta prédication qui va faire changer les gens. C'est l'Esprit Saint qui convainc. C'est l'Esprit Saint qui change. La prédication peut aider, mais elle ne changera, bien-aimé, que par la souveraineté de Dieu. Tu peux prêcher pendant 10 ans, bien-aimé, et voir aucune conversion. Mais le Seigneur ne nous a jamais demandé, bien-aimé, de faire du résultat. Jamais dans la Bible, on va lire que Dieu a demandé, mais il faut que tu convertisses tant de personnes pour être sauvé. La Bible nous demande de prêcher. Et le Seigneur dit lui-même que l'Esprit Saint convaincra de péché, de justice et de jugement. Notre souci ne doit pas être le résultat que ça va produire. Notre souci, premièrement, en tant que serviteur, en tant qu'esclave de Dieu, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Le reste, ça appartient à Dieu seul. Parce que nous sommes dans une logique de résultat. Ce qui ne produit pas de résultat, on arrête. Bien-aimés, nous ne sommes pas dans une entreprise où il faut faire du chiffre d'affaires, sous peine de faire couler la boîte, bien-aimés. La boîte dans laquelle nous sommes ne peut pas couler. Dieu ne coule pas. La parole de Dieu ne peut pas couler. Dieu ne nous demande pas de faire du chiffre d'affaires. Il ne nous demande pas de remplir des églises. Il nous demande tout simplement de le servir comme lui, il veut. À la place que lui, il veut. Mais nous entrons dans les justifications. Et toutes les justifications, bien-aimés, sont des raisons pour lesquelles il y a finalement peu d'ouvriers. Puisque nous nous justifions, Dieu ne nous utilise pas. Le Seigneur veut des ouvriers, veut des serviteurs, il veut des esclaves. Un esclave ne discute pas avec le maître. L'esclave obéit tout simplement. Moïse est entré dans les questionnements. Et ces mêmes questionnements, bien-aimés, nous suivent encore jusqu'à aujourd'hui. Ces mêmes raisonnements nous empêchent de servir le Seigneur. Et si nous lisons la suite, Moïse va encore se justifier. Mais Seigneur, tu sais que moi, je n'ai pas la langue facile. Parce que lorsqu'il a dit que, mais le peuple ne me croira pas, Dieu lui a dit, prends le bâton qui est dans ta main. Le bâton s'est transformé en serpent, Moïse fuyait. Dieu a montré à Moïse ce qu'il était capable de faire. Tu iras avec ce bâton-là et tu feras ça s'il ne te croit pas. Dieu nous a montré des signes. Seigneur, c'est vrai, merci. On loue le Seigneur. Il m'a donné un travail. On loue le Seigneur, il m'a donné le mariage. Mais lorsqu'on a eu tout ce que Dieu nous a donné, bien-aimé, avec le temps, l'homme oublie. Il va encore demander d'autres preuves à Dieu pour montrer que Dieu existe. Seigneur, vraiment, si tu es avec moi, fais encore ce miracle-là. Mais les miracles qu'il a fait avant, bien-aimé, ils sont où? Dieu a déjà manifesté qu'il était Dieu. Et soyons certains, bien-aimés, que si nous voulons voir des choses pour que Dieu nous montre qu'il existe, Satan va nous montrer des choses extraordinaires aussi, bien-aimés. Ce que nous voyons ne va pas justifier l'existence de Dieu. Dieu a déjà manifesté qu'il était Dieu à travers toute sa création. Dieu manifeste qu'il est Dieu en permettant que tout ce qu'il a créé subsiste encore aujourd'hui. Nous voulons croire que Dieu est Dieu parce que les boiteux vont marcher, parce que les paralytiques vont se lever, parce que les aveugles vont voir. Nous voulons croire que Dieu est Dieu parce qu'il nous aura bénis conformément à ce qu'on aura prié. Bien-aimés, même si Dieu ne nous exauce pas, ça ne change pas le fait qu'il est assis sur son trône au siècle des siècles. Ça ne changera pas, bien-aimés. On peut se lamenter, on peut tourner, on peut se rebeller, on peut murmurer, on peut bouder contre les églises, on peut bouder contre les serviteurs. Bien-aimés, ça ne changera pas le fait que Jésus-Christ est Seigneur. Notre problème, c'est de savoir qui nous a envoyés. Notre souci, c'est de savoir qui est avec nous. Il dit que nous avons reçu quelque chose. Si Dieu nous envoie, c'est que forcément, il nous donne ce qu'il faut pour le servir. Seigneur, tu sais que je n'ai pas la parole facile. Moïse se justifie encore. Je n'ai pas d'éloquence. Il y avait un témoignage bien-aimé qu'on a déjà vu ici. Une personne qui n'avait pas appris à écrire, qui ne savait pas lire non plus. C'était un terroriste. Il a eu une enfance difficile. Il a été abandonné de sa mère. Et il a commencé à terroriser en faisant exploser certains endroits. Bien-aimé, le jour où il a rencontré le Seigneur, le jour où la parole de Dieu l'a touché, le jour où l'Esprit Saint l'a convaincu, bien-aimé, il était tellement dans la joie. Partout où il entrait dans le bus, il parlait de Dieu. Mais il parlait de quel Dieu ? Il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Bien-aimé, il parlait avec tout simplement les mots qu'il avait dans son cœur. Il n'a pas récité Jean 3,16, il n'a pas récité les versets bibliques, mais il a tout simplement laissé le cœur s'exprimer. Je servirai Dieu quand je connaîtrai bien la parole. Je servirai Dieu quand j'aurai fait tant d'années d'études. Cette personne ne savait ni lire ni écrire, mais tout simplement parce qu'il a été touché par Dieu, il a été parlé de Dieu. Dieu m'a changé, Dieu m'a touché. Bien-aimé, à partir de cette prédication-là, qui pouvait paraître comme farfelue, qui pouvait paraître comme désordonnée, mais des personnes se sont converties. Ce n'est pas par l'éloquence, ce n'est pas par la connaissance que nous allons emmener les gens à se convertir, mais c'est tout simplement par l'obéissance à Dieu. Si nous attendons, bien-aimé, de connaître un certain nombre de versets pour servir Dieu, bien-aimé, mais on ne va jamais le servir. Parce que qui peut dire qu'il faut connaître tant de versets pour servir Dieu ? Qui peut placer un chiffre, qui peut placer un nombre pour dire qu'il faut connaître tant de versets pour servir Dieu, bien-aimé? Si nous attendons de connaître Dieu selon nous, bien-aimé, alors nous ne servirons jamais le Seigneur. Parce qu'il y a une chose qui est réelle, c'est que tant que le Seigneur n'est pas venu, jusqu'au jour qu'il revienne, bien-aimé, soyons certains qu'on va continuer à apprendre. On ne va jamais connaître le Seigneur dans sa totalité tant que nous serons dans ce monde-là. Alors si nous attendons de le connaître, je ne sais pas comment, on ne va jamais servir Dieu. Il y a peu d'ouvriers bien-aimés. Parce qu'il y a un système spirituel qui a été fait. Où pour être pasteur, il faut faire tant d'années d'études théologiques. On te donne un diplôme, tu passes pasteur stagiaire. Après un certain nombre d'années, tu passes maintenant pasteur titulaire bien-aimé. C'est écrit où dans la Bible que pasteur ait un diplôme? Il n'y a pas de diplôme pour devenir pasteur. Il n'y a pas de diplôme pour servir Dieu. On sert Dieu parce que lui a décidé qu'on devait le servir. Vous voyez aujourd'hui combien de personnes qui travaillent dans le milieu social ou dans certains milieux hospitaliers qui ont fait des années d'études parce qu'ils étaient certains que c'est ce qu'ils voulaient faire. Mais bien aimé, dans certains milieux, la durée moyenne de vie est de 3 ans. C'est-à-dire lorsqu'on fait la moyenne des personnes qui travaillent dans certains milieux, on arrive à 3 ans, après ils démissionnent. Mais toutes les années d'études, les diplômes qu'il a eus, parce qu'il était certain que c'était ça qu'il devait faire, c'est la déception, bien-aimé. Les personnes dans le social qui passent des diplômes, et beaucoup réussissent, parce qu'il y a certains diplômes dans le social qui sont quelquefois difficiles. Alors, il y a des personnes qui ont une certaine facilité pour apprendre, qui ont une certaine facilité à l'école. Alors, bien entendu, ils vont réussir tous ces examens-là. Mais lorsqu'ils arrivent maintenant sur le travail lui-même, lorsqu'ils arrivent sur le terrain, bien-aimé, 1 an, 2 ans, ils démissionnent. Mais ce n'était pas par les diplômes qu'on pouvait arriver là. Le diplôme, bien-aimé, ne fait pas la réalité. Certains ont eu des diplômes pour être pasteur. Bon, ce n'est pas mauvais d'apprendre. Mais être serviteur de Dieu dans une telle ou telle fonction, ça nécessite un appel de Dieu. Et si nous servons le Seigneur à tel niveau, c'est qu'il nous a donné les moyens pour le servir à tel niveau. Nous voulons faire des années d'études, attendre pour commencer à servir Dieu. Bien-aimés, les disciples, lorsque le Seigneur est parti, ils n'avaient pas tout compris, bien-aimés. Ceux qui étaient avec le Seigneur lui-même n'avaient pas encore réalisé que le salut était aussi disponible pour les païens. Pourtant, ils marchaient pendant 3 ans, jour et nuit, avec le Seigneur. Et celui qui est arrivé après l'apôtre Paul est venu leur expliquer ces choses-là. Ce n'est pas dans la durée ou dans le temps, bien aimé, qu'on peut justifier que quelqu'un est prêt à servir Dieu. Quelqu'un est prêt à servir Dieu le jour où Dieu dit que c'est le moment. Je servirai Dieu quand je serai plus spirituel. Bien aimé, soyons certains qu'avec de tels raisonnements, on ne servira jamais le Seigneur. Et c'est la raison pour laquelle il y a peu d'ouvriers. Des ouvriers qui sont dans une configuration où ils veulent tout simplement recevoir. Ils ont des cahiers et des cahiers, ils prennent beaucoup de notes. Ils prennent beaucoup de notes, mais après toutes ces notes-là, on ne sait pas où ça finit, bien aimé. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font de ces notes-là. On doit servir Dieu parce qu'il a décidé qu'on pouvait le servir. Et lorsque Dieu nous appelle, bien aimé, nous tous qui avons accepté le Seigneur comme notre Dieu, comme notre roi, soyons certains qu'il nous a donné les moyens pour le servir. Avec le Seigneur, il n'y a pas de remplaçant. Juges chapitre 6. Juges chapitre 6, après le livre de Josué. La Bible dit, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza. Et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Verset 11. Puis vint l'ange de l'Éternel. Et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, « L'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte. Maintenant, l'Éternel nous abandonne. » Et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» dit le Seigneur à Gédéon. Israël a péché contre l'Éternel et Dieu les a livrés entre les mains d'un peuple. Alors ils se sont tourmentés, ils se sont lamentés. La Bible dit, ils ont crié à Dieu. Dieu a entendu les cris. Comme il avait entendu les cris de son peuple en Égypte. Comme il s'est révélé à Moïse, Dieu vient se révéler à Gédéon et lui dit que c'est toi que j'ai choisi pour délivrer Israël de la main de Madian. Gédéon s'est posé la question, mais vraiment si Dieu est encore là, mais où sont tous ces prodiges, tous les exploits que Dieu a fait autrefois, où sont-ils? Bien-aimés, vous voyez que Gédéon était en train de battre du froment. Il était en train de travailler. On ne l'a pas averti que dans tant d'années, Dieu va te visiter pour que tu le serves, bien-aimé. Servir Dieu, le Seigneur nous surprendra. Lorsque les choses sont trop planifiées, quelquefois on peut dire que nous avons pu. J'ai bien préparé les choses. Mais Dieu nous prendra par surprise pour qu'on réalise bien que c'est lui qui a fait les choses. Gédéon ne savait pas que Dieu le visiterait. Mais il était tout simplement là. Servir Dieu, bien-aimé, je le répète, ce n'est pas au moment où nous avons décidé que nous sommes prêts. Servir Dieu, c'est au moment où Dieu décide que nous sommes prêts. Gédéon était en train de faire autre chose, il ne pensait même pas à Dieu. La réflexion qui le fait le montre. Mais où est Dieu, puisque voilà tout ce qu'on vit. Donc ils étaient même pas dans l'attente, ils n'avaient même pas l'espoir que Dieu visiterait. Pour lui, les choses qui étaient manifestes devant lui montraient que Dieu n'était plus avec eux. Mais c'est à ce moment-là que Dieu le visite. Et lorsque Dieu L'ange lui parle, lui dit, vaillant héros. Gédéon, le plus petit de sa famille, Dieu l'appelle vaillant héros. Pourquoi il y a peu d'ouvriers bien-aimés? Parce que les gens sont omnibulés de savoir ce que les gens pensent d'eux. Ah, mais moi, on m'a toujours dit que j'étais un vaurien. Mais moi, on m'a dit que je ne connaissais pas assez. Mais moi, on m'a dit que je n'étais pas à la hauteur. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est pas ce que le pasteur a dit de toi. Ce qui est important, ce n'est pas ce que le frère a dit de toi. Ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de toi. Et lorsqu'il s'est révélé à Gédéon, il a appelé vaillant héros. Bien-aimé, ce qui est important, ce n'est même pas de savoir ce que toi, tu penses de toi. Il y a peu d'ouvriers bien-aimés. Parce que lorsque nous nous regardons dans le miroir, nous voyons que ce que nous voyons, que ce que notre visage nous montre. Lorsque nous nous regardons, nous voyons peut-être tel que nous étions autrefois. Mais même ça, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de savoir comment Dieu nous voit. Beaucoup ne servent pas le Seigneur parce qu'ils ont une très mauvaise image d'eux-mêmes. Marqués peut-être par des paroles qu'ils ont entendues, marqués peut-être par des choses qu'ils ont vécues. Gédéon se voyait comme le plus petit. Gédéon se voyait comme inutile, mais Dieu l'a appelé vaillant héros. Vaillant héros parce que Dieu avait mis en lui les qualités d'un vaillant errant, mais Gédéon ne le savait pas. Lorsque nous ne sommes pas conscients que nous avons reçu quelque chose de Dieu, on n'acceptera jamais bien-aimé de servir Dieu. Reconnaître qu'on a reçu quelque chose de Dieu bien-aimé, ce n'est pas de l'orgueil. Qu'on ne se trompe pas bien-aimé. On peut être conscient de ce que Dieu attend de nous. Ce n'est pas orgueilleux de dire « je crois que Dieu attend ça de moi, bien-aimé ». Ce qui est important, c'est comment Dieu nous appelle, c'est comment Dieu nous regarde, et non pas ce que les gens pensent de nous. Il s'est révélé à Gédéon, il l'a appelé vaillant héros. Parce que Dieu avait mis en lui toutes les qualités pour être appelé vaillant héros. Et c'est ça qui est important. Si nous restons bien-aimés sur le banc, parce que l'entraîneur a décidé qu'on devait rester remplaçant, bien-aimés, on va rester remplaçant toute notre vie. Nous avons lu que les critères de sélection, selon Dieu, ne sont pas semblables à ceux du monde. Dieu a choisi les choses viles. Vous voyez, lorsque Samuel s'est présenté devant David, la Bible dit, mais il a vu un enfant. Avant ça, il est parti pour oindre le roi parce que Dieu l'avait envoyé. Il cherchait là où il y avait un grand, un costaud. Dieu lui a dit, non, il n'est pas ici. Lorsqu'il a vu David, il a vu un enfant. Dieu lui a dit, mais vous, vous regardez selon ce qui frappe les yeux. Mais moi, je regarde ce qu'il y a dans le cœur. Si David, bien-aimé, s'était contenté de ce que les hommes pensaient de lui, lorsqu'il s'est présenté devant Goliath, ses frères lui ont dit, mais qu'est-ce que tu viens faire ici, toi? Les gens lui ont dit, mais tu n'es qu'un enfant. Ça, c'était ce que les gens voyaient de lui. Mais lui avait cette assurance-là que Dieu avait mis quelque chose en lui. Il avait cette assurance que Dieu était avec lui. Lorsqu'il est venu devant Goliath, bien-aimé, David l'a confessé, il avait compris que ce n'était pas une question de victoire. Ce n'était pas une question de combat, pardon. Il dit, ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel. C'était un fait, c'était une assurance. David ne venait pas devant Goliath pour combattre avec lui. Il venait devant Goliath pour proclamer que Dieu était victorieux. David était venu confirmer que la victoire appartient à Dieu. Mais s'il s'était arrêté à ce que lui avaient dit ses frères, s'il s'était arrêté à ce que pouvaient penser les autres de lui, bien-aimé, il n'aurait jamais rien fait. Son souci à lui, c'était ce Dieu-là qu'il avait gardé pendant qu'il a combattu les ours ou bien les lions. Son souci, c'est de savoir que ce Dieu-là était avec lui. Il venait là au nom de Dieu. Il ne venait pas en son propre nom. Si nous nous attardons, bien-aimés, à penser, à réfléchir, à nous tourmenter sur ce que les gens vont dire de nous, ce que les gens vont penser de nous, bien-aimés, c'est la raison pour laquelle il y a peu d'ouvriers. L'ouvrier se soucie de ce que son maître lui dit. Un esclave bien-aimé, tu peux sortir de nulle part, tu dis ne fais pas ça, va dire non, 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 mon maître m'a dit de le faire, je le fais. C'est un problème entre mon maître et moi. Ce qui est important, bien-aimé, ce ne sont pas les choses que les gens peuvent penser. mais c'est ce que Dieu pense de nous. L'ouvrier doit se soucier de ce que son maître attend de lui. Il y a un homme qui avait dit, mais Seigneur, partout où tu iras, je te suivrai. Et puis il dit, mais Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Le Seigneur dit, non, laisse les morts enterrer leurs morts. Lorsqu'on parle des morts, bien-aimés, ce sont ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur. Laisse ceux qui n'ont pas reçu le Seigneur s'occuper de tout ce qui est terrestre. Ça ne voulait pas dire que le Seigneur ne tenait pas compte du souci qu'il pouvait avoir pour son père. C'était pour faire comprendre qu'il y a des priorités avec Dieu. Alors pourquoi il a peur d'ouvriers? Mais parce que beaucoup ont inversé les priorités. D'abord le monde, Dieu après. Seigneur, laisse-moi d'abord trouver du travail. Quand je serai bien installé, je viendrai te servir. Seigneur, laisse-moi d'abord profiter un petit peu des boîtes de nuit, un peu tout ça. Quand j'aurai fini, je viendrai te servir. Seigneur, laisse-moi profiter, danser un peu sur la musique du monde. Quand j'aurai fini, je viendrai te servir. Il y a peu d'ouvriers bien-aimés parce que notre souci est sur la terre. Notre souci n'est pas envers le Seigneur premièrement. Mais si nous croyons bien-aimés, d'abord régler nos problèmes pour venir servir Dieu. Bien-aimés, nous sommes sur la terre. La terre, il y aura des problèmes jusqu'à la fin du monde. Alors soyons certains, bien-aimés, que nous aurons toujours des problèmes à régler. Alors si nous entrons dans cette logique, c'est que finalement nous ne servirons jamais Dieu. Il y aura toujours des problèmes à régler sur cette terre. Nous ne sommes pas dans le paradis, bien-aimés. Laissons les morts enterrer leurs morts. Suivons d'abord le Seigneur. Servons d'abord le Seigneur. Ça doit être ça notre priorité. Le ciel et la terre passeront. Dieu, lui, ne passera pas. Nous voulons d'abord régler les problèmes et dire, Seigneur, je viendrai après. Ah, mon frère, ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu à l'assemblée, mais c'est ma vie. Ah, mais bien-aimé, nous sommes un corps. La Bible dit que les disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Le frère te dit, mais ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu. C'est un sujet à débattre. Tu ne connais pas ma vie, tu ne sais pas ce que je fais chez moi. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la Bible dit qu'ils persévéraient ensemble. Donc, comment tu peux persévérer tout seul puisque c'est écrit qu'il faut persévérer ensemble? C'est contradictoire à la parole de Dieu. On ne peut pas servir Dieu bien-aimé en ayant notre propre conviction. Nos convictions doivent être fondées sur la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il y a peu d'ouvriers. On peut avoir l'impression que Dieu est méchant, il y a tant d'âmes à sauver. Mais la question c'est qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous acceptons de servir Dieu comme lui il veut? Ou nous voulons servir Dieu comme nous-mêmes nous voulons? Et là, bien-aimé, on peut en discuter pendant des années et des années. Dieu ne changera pas son programme. Dieu ne changera pas son programme, bien-aimé. Le Seigneur dit, on vous conduira devant les tribunaux. Mais ne vous inquiétez pas de ce que vous direz. Au moment même, on mettra dans votre bouche ce que vous devrez dire. Lorsque le Seigneur nous oriente ou nous conduit bien-aimés, on a quelquefois l'impression que Dieu est loin. On veut avoir les outils tout de suite, les armes tout de suite pour pouvoir répondre à la demande. Bien-aimés, si Abraham avait réfléchi ainsi, bien-aimés, il n'aurait jamais obéi au Seigneur quand on lui a dit d'aller sacrifier son fils. La Bible nous dit dans Hébreux que Abraham l'a fait parce qu'il avait cette foi que Dieu pouvait ressusciter son fils. Alors, il fallait que Dieu montre à l'avance à Abraham, non, ne t'inquiète pas, je vais pourvoir, il y aura un animal, tu vas le sacrifier pour ton fils, c'est bien aimé. On ne doit pas s'inquiéter si lorsque Dieu nous dit va, même si bien aimé, on arrive à 500 mètres du lieu, les mains sont toujours vides, on doit avoir cette assurance que sur le lieu même, Dieu donnera ce qu'il faudra. Être serviteur de Dieu bien-aimé, c'est être dans l'assurance. Vous savez, l'œuvre de Dieu ne nous appartient pas. L'œuvre de Dieu n'est pas à nous. Je ne vous aime pas plus que Dieu vous aime, bien-aimé. Ce n'est pas par l'amour que j'ai que les choses vont changer. C'est à cause de l'amour de Dieu qu'il a manifesté en donnant Jésus-Christ. Alors pourquoi je veux mettre dans une position comme si j'avais plus d'amour pour Dieu? Seigneur, ça fait longtemps que je prie, toi tu ne touches pas les cœurs. Mais ce sont les âmes que Dieu a créées. Ce sont les âmes pour lesquelles Jésus-Christ est mort. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour ces âmes? Je n'ai rien fait. Je veux me déranger, je veux me fâcher parce que j'ai l'impression que Dieu n'agit pas. C'est l'œuvre de Dieu. Il y a peu d'ouvriers parce que les gens veulent s'accaparer l'œuvre de Dieu. Et lorsque les choses sont ainsi, Dieu ne confie pas de responsabilité. Alors, on est en face d'un choix. Dieu ne nous a pas confié de responsabilité, on s'humilie pour être au service de Dieu. Ou bien on fait comme certains, on kidnappe l'œuvre de Dieu. Et là, ce sont des œuvres qui ne sont plus dirigées par la Bible, mais dirigées tout simplement par des lois humaines. Mais pour toutes ces choses-là, bien-aimés, il y aura un jugement. Soyons certains de cela, bien-aimés. Les disciples, lorsque Jésus-Christ les envoyait en mission, bien-aimés, ils n'étaient pas dans la configuration à ce moment-là que nous sommes aujourd'hui. Ils étaient dans la même configuration que les prophètes de l'Ancien Testament, que le roi de l'Ancien Testament, qui était revêtu de l'Esprit Saint pour accomplir une mission. Mais après le départ du Seigneur, il leur a dit la promesse qui est dite dans Joël, que les hommes auront l'Esprit de Dieu. Cette promesse va s'accomplir dans Actes 1:8. Le Saint-Esprit, à partir de là, va vivre maintenant dans le chrétien. Toute personne qui accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, la Bible dit dans Éphésiens 1:13, il est scellé du Saint-Esprit. Alors ce qui pouvait être difficile à l'époque, bien-aimés, nous sommes dans une configuration où les choses nous ont été simplifiées. Nous sommes tous armés pour servir le Seigneur. Que personne ne nous trompe, bien-aimés. Servir Dieu ne se limite pas simplement à passer devant, à prêcher ou à faire le travail de pasteur. Servir Dieu, bien-aimé, c'est accepter d'être au service du Seigneur. Bien-aimé, ne nous trompons pas. Je ne dis pas qu'on va commencer à courir de gauche à droite pour savoir où servir Dieu. Nous avons vu l'exemple de Gédéon. Nous avons vu l'exemple de Moïse. C'est Dieu qui s'est révélé. C'est Dieu qui est venu. Laissons Dieu nous imposer ce que nous devons faire. Ne choisissons pas là où nous voulons servir Dieu. On peut proposer à Dieu. Ce n'est pas un problème, mais que la volonté de Dieu soit faite. N'imposons pas à Dieu, bien-aimé. Ne forçons pas le Seigneur à nous utiliser comme nous avons voulu. Mais mettons-nous tout simplement à la disposition de Dieu. Et je veux clôturer, bien-aimé, en disant que, en nous appelant à le servir, Dieu a un système. Le système de Dieu fonctionne avec des hommes. Le Seigneur peut passer un message pour toi, par le frère, par la sœur, comme il veut. Le Seigneur nous place dans des assemblées où il y a aussi des autorités. Il nous place dans des assemblées où il y a des personnes qui ont une certaine maturité spirituelle. Si tu ne sais pas, peut-être ce que Dieu a mis en toi, bien-aimé, ce n'est pas un obstacle pour ne pas servir Dieu. On peut commencer à servir Dieu en l'adorant, en intercédant, bien-aimé. Ce sont des choses qui sont claires dans la parole de Dieu. Pour les choses, eh bien, Dieu va utiliser les moyens qu'il veut. Et dans ces moyens-là, comme je le dis, il y a des hommes et il y a des autorités. Je le dis, bien-aimé, que chacun puisse prendre conscience. Je ne vais pas dire que pour connaître ce que tu as, forcément, il faut que tu passes par le pasteur. Je dis non. Dieu nous a donné l'intelligence. C'est à chacun de s'humilier et de reconnaître que oui, je dois faire les choses de telle manière ou de telle manière. Tout ce que nous cherchons à faire pour être à l'aise, bien-aimés, posons-nous la question si c'est vraiment de Dieu. Le Seigneur va nous déranger comme il a dérangé Gédéon, comme il a dérangé Moïse. Alléluia. À Jésus-Christ seul soit la gloire au siècle des siècles. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, nous te bénissons, Seigneur de gloire, nous te louons pour les merveilles que tu fais. Seigneur, nous voyons dans ta parole que tu as utilisé même un âne pour prophétiser, Seigneur. Tu as dit, Seigneur Dieu de gloire, à tous ces pharisiens que même si les hommes se taisent, les pierres vont crier. Seigneur de gloire, mais tu nous as fait le privilège de pouvoir devenir tes enfants, de pouvoir t'adorer et de pouvoir te servir. Nous ne voulons pas, Seigneur Dieu de gloire, que les animaux te servent à notre place. Nous ne voulons pas que les pierres te servent à notre place, Seigneur. C'est pour ça que tu nous as sauvés, Seigneur de gloire. Lorsque tu as parlé à Moïse, tu as dit, dis à Pharaon de laisser aller mon peuple afin qu'il m'adore dans le désert. Seigneur, c'est pour t'adorer que tu nous as sortis du monde. Et nous réalisons, Seigneur de gloire, que oui, si la moisson est grande et qu'il y a peu d'ouvriers, Seigneur de gloire, c'est parce que nous avons refusé d'être des ouvriers comme toi tu le veux. Nous avons cherché à être des ouvriers à l'image du monde. Nous avons cherché à être des ouvriers selon notre propre conception. Et nous te demandons pardon pour cela, Seigneur. Éternel Dieu de gloire, dans le nom de Jésus, viens au secours de notre incrédulité, Seigneur de gloire, au secours de notre manque de foi. Aide-nous, Seigneur, à comprendre ce matin que réellement tu nous as donné tout ce qu'il faut pour te servir, Seigneur, chacun à notre niveau, chacun à notre place. Étant membre du même corps, Seigneur de gloire, tu as donné une fonction à chacun. Dans le nom de Jésus, toi qui donnes la vue aux aveugles, Seigneur, ce matin, ouvre-nous les yeux afin que nous puissions réaliser pleinement tout ce que tu attends de nous, Seigneur. Renouvelle notre intelligence, Seigneur, afin que nous puissions discerner ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ. C'est vrai, Seigneur de gloire, que nous prions. Seigneur, envoie des ouvriers pour la moisson, alors que nous-mêmes nous sommes là, Seigneur, déjà. Dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, que ton Esprit Saint nous purifie ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, aide-nous, Seigneur de gloire, à réaliser la grâce et le privilège que de te servir, Seigneur. Toi qui es Dieu, Seigneur de gloire, les cieux des cieux ne peuvent te contenir, mais tu nous as choisis, Seigneur. Dans le nom de Jésus, aide-nous ce matin, Seigneur de gloire, à nous soumettre entièrement à ta volonté, à accepter de te servir selon ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous voulons être comme un seul homme, comme une seule armée, Seigneur de gloire, pour te servir. Nous voulons être, Seigneur de gloire, ce peuple qui se tient à la brèche, ce peuple qui se tient au front, Seigneur de gloire, pour faire ta volonté. Seigneur de gloire, nous savons que tu t'es réservé des hommes, Seigneur de gloire, pour te servir. Tu t'es réservé une armée, Seigneur de gloire, pour faire ta volonté. Et c'est de cette armée, Seigneur de gloire, que nous voulons faire partie ce matin. Dans le nom de Jésus, façonne-nous, Seigneur de gloire, à ton image, Seigneur de gloire, dans le nom de Jésus. Bien-aimé, prenons conscience de ce chant, bien-aimé. Prenons conscience, bien-aimé, de ce que Dieu attend de nous ce matin encore en tant qu'armée de Dieu.
Yeah. toi.